rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Le Gall.
Bonjour Thibaut.
Vous êtes l'archevêque de Toulouse et avec vous pendant ce mois d'octobre, nous allons parler de la dignité de la procréation. En effet, le mois de septembre a été d'une riche actualité sur le sujet puisque, coup sur coup, sont parus un fascicule de la Conférence des évêques de France intitulé « Respectons la dignité de la procréation » avec un point d'exclamation, et le rapport du Comité consultatif national d'éthique après des mois de réflexion et de consultation de la population française intitulé, lui, « Contribution à la révision de la loi de bioéthique ». En lisant le document des évêques, nous n'apprendrons rien. L'Église est l'Église, elle ne change pas d'avis tous les ans, ni même tous les siècles.
C'est ça.
C'est le rapport du CCNE qui bouleverse un possible rapport des Français avec plusieurs questions éthiques liées à la procréation et à l'embryon, en poussant à un assouplissement des règles. Mais avec vous, Monseigneur Le Gall, nous allons nous éloigner de la polémique. Même si vous nous appelez clairement à dire nos convictions, nous ne parlerons pas ici de manifestation. Nous allons calmement, en prenant notre temps, reposer les bases de cette dignité de la procréation à laquelle tout chrétien doit être attentif. Nous avons dans les mains le fascicule de la Conférence des évêques. Vous avez votre propre réflexion sur ce sujet essentiel et nous allons les partager aux éditeurs de Radio Présence.
Nous allons faire de notre mieux.
Nous allons faire de notre mieux. Tout d'abord, Monseigneur, pourquoi ce texte maintenant ?
Ce texte a une histoire parce que ça fait plusieurs années, notamment depuis les années 1994, où les questions se sont posées, où les évêques ont eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Mais ce texte qui est paru récemment et sous la signature de tous les évêques, nous avons décidé de le publier sous la signature de tous les évêques lors d'une rencontre des archevêques métropolitain à Paris au début du mois de septembre, et où nous étions réunis, les 15 archevêques métropolitains, avec le conseil permanent. Et on a eu dans la journée un exposé fort bien fait, comme d'habitude, par Mgr Dornelas, archevêque de Rennes, qui est président de cette commission. Et donc, on nous a résumé les affaires. On a eu le texte, à la fois le texte complet, puis le résumé. Et comme vous savez, il y a un résumé de 3 pages. Et qui est excellent.
Que tout le monde devrait lire.
Et retenir autant qu'il
absolument,
est possible.
Absolument.
Mais je voulais souligner aussi que dans cette commission autour de Mgr Dornelas, qui est vraiment la cheville ouvrière de tout cela, il y a quelqu'un que nous connaissons bien parmi les 5 ou 6 évêques qui sont là-dedans, ou 6 ou 7, je ne sais plus. Il y a Mgr Olivier de Germay, et qui a été mon conseiller épiscopal ici
à Toulouse,
et qui est évêque d'Ajaccio en Corse. Il en fait partie, ainsi que Mgr Nicolas Brouet, qui est l'évêque de Tarbes-et-Lourdes dans notre province de Toulouse. Je voulais souligner ça parce que c'est un caractère concret de l'élaboration de ce texte, d'une part, et la décision prise par les métropolitains avec le conseil permanent de faire signer ce texte par tous les évêques de France, c'est dire l'importance que ce texte et cette réflexion revêt véritablement pour nous.
Ce n'est pas si fréquent que ça que tous les évêques signent un texte qui émane de la conférence. Ça peut venir par exemple uniquement du conseil permanent ou d'autres instances. Là, le fait que ce soit tous les évêques, ça revêt un caractère particulier.
Peut-être. Oui, ça a une certaine solennité. Et bien, par exemple, le conseil permanent a publié un texte après la lettre au peuple de Dieu du pape François. Et dans ce conseil permanent. Et il est fréquent, par contre, aussi que, enfin, fréquent, pas tant que ça à la vérité, mais il nous arrive lors des assemblées des évêques de signer ensemble un texte ou un communiqué, etc. C'est ce qui arrive aussi. Enfin, malgré tout, dans l'ensemble, ce n'est pas tous les ans, ni plusieurs fois par an, qu'on a ce genre de prise en compte par tous les évêques de cette question extrêmement importante, évidemment, et qui nous tient très à cœur.
D'accord. Et elle vous tient à cœur. Ça signifie que vous tenez à ce que tous les chrétiens de France comprennent ces enjeux-là et quoi, y adhèrent, les respectent. C'est quoi l'enjeu pour vous derrière ? C'est une adhésion ? l'année entière des chrétiens?
Nous aimerions évidemment que les chrétiens puissent se faire une idée et donc éclairer par les réflexions que nous leur proposons. Mais une des tonalités de ce document, c'est d'ailleurs, ce n'est pas un document qui veut donner des leçons, ni donc donner des consignes extrêmement forte et lapidaire. Et le ton du document, c'est un ton qui invite au dialogue, donc à la réflexion.
Oui, vous le dites à plusieurs reprises.
Là, mais vraiment, oui. je trouve que c'est d'ailleurs dans le texte lui-même, au début et à la fin, c'est assez net, et le père Daniel l'avait dit l'autre jour aussi à Paris quand nous étions ensemble. Mais le ton, la manière de présenter les choses, c'est pas des impératifs à prendre ou à laisser, c'est des convictions qui sont exprimées, et exprimées au nom de la foi, certes, mais aussi en lien, et nous allons certainement y revenir, en lien avec des réflexions qui sont celles des personnes qui réfléchissent et qui ont mission d'éclairer la population, en France, notamment le Conseil d'État, par exemple, ou ce que vous avez cité tout à l'heure, le Conseil consultatif national pour l'éthique. Et là, donc, cette tonalité vraiment d'un appel à la réflexion serein et non pas visant des conduites ou des personnes, surtout pas qui sont dans des pratiques autres, c'est ce qui a guidé cette réflexion. Un appel positif à la réflexion face à des questions qui quand même engagent l'avenir de manière importante.
Je vous trouve très fort, en tout cas en termes de sérénité, puisque donc c'était il y a quelques semaines au mois de septembre, et c'est vrai que coup sur coup sont parus ce texte de la conférence des évêques et l'avis du CCNE à quelques jours d'intervalle. Et c'est vrai que pour conduire notre réflexion, d'avoir votre texte d'abord et ensuite le positionnement.
Et on avait voulu en effet que ce texte paraisse un petit peu avant, de quelques jours en fait, et nous souhaitions pour quelle que soit la décision, il n'y a pas de décision, c'est un avis, qui a été donné pour l'instant, et donc avis qui a été donné au gouvernement et qui le président de la République a dit à plusieurs reprises qu'il déciderait, etc. Mais je me permets de me rappeler aussi que lors de la rencontre que nous avons eue avec le président de la République au Bernardin il y a quelques mois, le président de la République avait dit qu'il n'attendait pas de l'Église des leçons, que l'Église soit donneuse de leçons. Et par contre, il attendait de l'Église un questionnement ou une inquiétude questionnante. La question questionnante, et je crois que c'est dans cette position-là que nous sommes, mais au nom de notre foi, une inquiétude vu nos convictions et par rapport à un certain nombre de valeurs pour maintenant et pour le futur, une inquiétude qui nous invite à poser des questions de fond.
Et c'est vrai que votre texte pose des questions, il y a de nombreux points d'interrogation et nous amène nous-mêmes à réfléchir, donc il n'est pas que affirmation. Même s'il pose effectivement des éléments que nous allons voir clairement, il soulève effectivement aussi des questions et il invite au dialogue. Donc, prenons cette question du dialogue.
À mon avis, c'est très important d'aborder ce texte de cette façon-là. Parce que ce que nous avons voulu, ce qu'a voulu la Commission, ce que les évêques ont entériné en donnant leur signature.
Alors, rentrons un petit peu dans ce texte, si vous voulez bien. L'un des éléments centraux de la réflexion des évêques est la dignité de la personne. Comment est-ce que vous positionnez cette question de la dignité et puis quel est le rapport avec la procréation ?
Le mot dignité est un mot extrêmement, extrêmement large. En parlant dans le texte que j'ai écrit moi-même et que j'ai encore un petit peu peaufiné avant de le faire paraître sur Internet pour notre diocèse, mais je l'ai travaillé un peu en vue de notre conversation, de nos conversations pendant ce mois d'octobre ici à la Radio Présence. Et j'évoque en effet le dialogue de la préface.
Oui.
La préface, vous savez, la messe a pour cœur la prière eucharistique, laquelle commence par un dialogue qui implique à la fois le célébrant et l'assemblée. Seigneur soit avec vous, et le vent de notre cœur, etc. Et cela est juste et bon, et embraye, c'est la réponse de l'Assemblée, ça. Cela est juste et bon, et le célébrant embraye le chant ou la préface en disant « Vere dignum et justum est ». Oui, cela, il est juste et bon, traduisons-nous en français. Même la nouvelle traduction du missel que je viens d'avoir et que nous aurons à valider en novembre à l'Assemblée des évêques, regardez, il est juste et bon. Mais le latin, c'est dignum et justum est. Il est digne et juste. Digne, c'est la dignité, c'est quelque chose qui appartient en propre à une personne qui fait qu'elle est respectable. La dignité, c'est forcément en lien étroit avec le respect inaliénable de la personne en toutes ses composantes. Et c'est-à-dire que le cartésianisme des Descartes, comme vous savez, nous a un peu trompés depuis quelques siècles en faisant une distinction bipartite dans l'être humain, c'est-à-dire le corps et l'âme. Et on revient de plus en plus à une distinction qui est tripartite et qui est issue de saint Paul en particulier, qui distingue dans ses épîtres à plusieurs reprises le corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme, c'est la psyché, c'est-à-dire c'est la psychologie. Et on parlait de corps et d'âme, mais on oubliait un petit peu cette psyché, cette espèce de folle du logis, ou cette espèce d'élément instable entre le corps et l'esprit, l'esprit le plus élevé. Et vous savez, dans les universités actuellement, c'est incroyable de voir le nombre d'étudiants qui font de la psychologie. Donc elle se rattrape. Et on a besoin donc que l'être humain soit respecté à ces trois niveaux.
D'accord. Eh bien, c'est un...
Et la dignité de l'être humain donc, doit être vérifiée au plan du corps, le respect du corps, respect justement de toute la psychologie complexe des êtres humains, vu leur situation, leur éducation, etc. Et le respect au niveau de notre spirituel, proprement dit, qui est un élément... tout ça, chaque élément doit s'équilibrer dans l'être humain que nous sommes tous et qui doit être respecté.
Alors, cette notion de dignité, nous verrons vendredi prochain, elle est placée par le Conseil d'État au frontispice du cadre juridique de bioéthique française. Donc, nous aborderons ce sujet vendredi prochain. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Avec joie, Thibault.
Rencontre avec nos évêques.